Alors, pour le message de ce matin, avant de vous donner le titre, je vais vous donner un peu les circonstances de ce message. En général, même tout le temps, je demande au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire pour l'assemblée en particulier où je vais prêcher ?» Et bon, ce n'est pas toujours évident. Je peux toujours avoir recours à quelques ressources, hein. Mettre ça au micro-ondes et puis vous ressortir un message, mais je voulais pas le faire, et vraiment je me mets devant Dieu. Et puis hier, toute la journée je priais, je même fait une marche de prière pour voilà, qu'est-ce que tu me donnes, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à l'église. Et puis bon, j'ai bien quelques pensées, etc. Bon, et toute la journée se passe, il est 21h30 et puis j'ai rien de précis. Bon, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je mets mon réveil plus tôt pour le lendemain, et je dis, ben, Seigneur, tu vas me parler demain matin ou dans la nuit. Et dans la nuit ou au petit matin, le Seigneur m'a parlé. Alors, j'étais content. Et il m'a dit, parle-leur de ma joie. Voilà. Parle-leur de ma joie, de la joie du Seigneur. Et je t'ai réjoui parce que les premiers mots que tu as prononcés ce matin, c'est un psaume, hein, où tu disais, servez l'Éternel avec joie. Faites monter vers lui des chants joyeux. Donc je me dis, ah, ça c'est une indication que le Seigneur m'a parlé. Voilà. Donc ce matin, c'est ça le thème, la joie. La joie du Seigneur. Vous connaissez sans doute ce petit verset qu'on trouve dans Néhémie qui dit, la joie du Seigneur est ma force. Hein, j'y viendrai tout à l'heure. On en a même fait un petit chant, la joie du Seigneur est ma force. C'est un vieux cantique. La joie du Seigneur. Ce n'est pas la joie tout seul, c'est la joie du Seigneur. Et je commencerai par dire que la joie, elle est dans le ciel. Elle est dans le ciel et elle est partagée à l'humanité. Et c'est ce qu'on découvre dans l'histoire du salut, en fait. C'est le ciel, on a pas mal parlé du ciel dans la louange, hein, histoire de la relation entre le ciel et la terre, l'échelle, ben, ça nous dit qu'il y a une communication entre le ciel et la terre, n'est-ce pas, hein, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite dans le ciel. Et Jésus, il est cette échelle, il est cet intermédiaire entre le ciel et nous. Et qu'est-ce que le ciel veut nous communiquer? Qu'est-ce que le ciel veut nous communiquer? Eh bien, le ciel veut nous communiquer la joie du ciel, la joie de Dieu. Et ce qui a motivé l'incarnation du Fils de Dieu, ben c'est cette joie du ciel, en fait. Vous savez, le livre des Hébreux, je ne sais pas si vous connaissez ce livre dans le Nouveau Testament, nous dit ce qu'il s'est passé avant le temps. Avant l'histoire, dans un temps atemporel où, avant même que tout ne soit créé, que l'univers ne soit, il y a cette relation entre le Père et le Fils, et ce dialogue que vous trouvez dans, notamment dans Hébreux 1 et puis aussi dans d'autres passages d'Hébreux. Et dans Hébreux 12, il nous est dit à propos de Jésus, hein, qui est l'auteur de la foi, hein, vous connaissez ce passage, Hébreux 12, verset 2, il est dit que, en vue de la joie qui lui était destinée, en vue de la joie qui lui était réservée. Et le mot exact, c'est la joie qui était devant lui. Jésus s'est incarné, le Fils, pardon, s'est incarné en Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée. Et c'est intéressant de voir ce dialogue qu'il y a dans ce temps atemporel, hein, dont on nous parle dans Hébreux 1, où le Père et le Fils sont en dialogue, et le Père, Dieu le Père, déclare, vous trouvez ça dans Hébreux 1, 9, c'est Dieu qui parle à Dieu, Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils, et qui lui dit, c'est pourquoi, ô Dieu, Dieu, oui, Dieu s'adresse à Dieu, Ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tous tes compagnons, et là, c'est les compagnons, les anges, les archanges, les êtres célestes, avec, nous est dit, une huile de joie. Avec une huile de joie. En grec, c'est agaliasis, une huile de joie. Et cette huile, vous savez ce que c'est, cette joie? C'est une joie extrême. C'est une allégresse. Et aux fêtes juives, le peuple était oint d'une huile de joie. Et là, dans cette cérémonie, on fait allusion à cette joie, à cette huile de joie dont le Fils, Dieu le Fils, a été oint par Dieu le Père pour s'incarner et devenir le Sauveur du monde. Il y a cette huile de joie qui a coulé sur lui, que le Père a déversée sur le Fils pour qu'il accomplisse sa mission. Et c'est l'emblème de la puissance divine et de la majesté à laquelle le Fils de Dieu a été élevé. Par cette huile d'onction qui est une huile de joie. Voilà. Avant même la fondation de la terre et de l'univers, avant que toute chose ne soit, eh bien, Dieu le Père oint Dieu le Fils de cette huile de joie. De cette huile de joie. Donc, vous voyez, ce qui a motivé l'incarnation, c'est la joie du ciel. C'est la joie du ciel. C'est la joie du ciel. Je continue. Et l'histoire du salut, c'est cette joie du ciel communiquée aux hommes. Quand l'ange vient annoncer aux bergers la bonne nouvelle, hein, c'est bientôt Noël, qu'est-ce qu'il leur dit? Et Luc 2, verset 10, il déclare « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande source de joie pour le peuple aujourd'hui. » Voilà ce qu'est le salut. D'emblée, l'ange déclare aux bergers qui sont étonnés que la bonne nouvelle, c'est la joie communiquée du ciel à vous, à tout le peuple. Voilà, Dieu, il est mu, hein, il est mu par cette joie qu'il étreint à l'idée de cette humanité qu'il va sauver. Vous savez que Dieu est joyeux. Dieu, c'est un être joyeux. Et Jésus, dans ses discours sur le salut, vous connaissez tous les trois paraboles de Luc 15, n'est-ce pas? La parabole de la brebis perdue, la parabole de la pièce perdue, la parabole du fils cadet perdu et retrouvé. Donc, tous ces trois récits nous parlent de trois facettes, en quelque sorte, du salut, du processus de salut. Et la tonalité générale, ben, c'est la joie. C'est la joie. Regardez les trois histoires et les conclusions qu'en donne Jésus. C'est à chaque fois la joie des retrouvailles. Et c'est une joie partagée. Et on nous dit que le berger, hein, qui a perdu une brebis sur 100, finalement, il va la chercher, il la trouve, et dans sa joie, il la prend sur ses épaules, il l'amène à la bergerie, et il dit à ceux qui sont autour de lui, « Réjouissez-vous, car ma brebis perdue est retrouvée. » Hein? Il communique cette joie, il partage cette joie. Et Jésus dit, en conclusion de cette parabole, « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. » Oui. Deuxième histoire, cette femme qui a 100 pièces d'argent, elle en perd une, elle nettoie tout, elle met sa maison sans dessus dessous jusqu'à ce qu'elle retrouve sa pièce elle la retrouve. Et elle est tellement dans la joie qu'elle invite toutes ses voisines. Et elle leur dit, réjouissez-vous avec moi. Et là, c'est intéressant le commentaire de Jésus. Que dit Jésus ? Il dit, il y a plus de joie devant les anges de Dieu. Très précisément, c'est, il y a plus de joie devant les anges de Dieu. Je vais trouver le verset exact. Luc 15. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et là, c'est intéressant le détail du devant. Alors, il y a certaines traductions qui disent parmi, mais la vraie traduction, c'est devant. Ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que les anges, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont devant Dieu. Vous voyez ? Ils sont devant Dieu. Et ils voient, ils regardent Dieu. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient la joie de Dieu. Ils voient la joie de Dieu. Et cette joie leur est communiquée. Et ils sont joyeux. Vous voyez ? Et c'est ce qui se passe quand un seul pécheur se repent. Imagine, ma sœur, toi qui es bébé depuis 3 semaines, la joie dans le ciel. Mais là-haut, ça a dû danser. Ça a été la fête. Ça a été youpi, hourra ! Elle est sauvée. Et Dieu lui-même qui applaudit des deux mains. Et tout le concert céleste derrière. Pour toi, et puis pour, il y avait une autre personne. Voilà, pour chacun d'entre nous, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, c'est la fête dans le ciel. C'est la fête. Dieu est content, Dieu est heureux, Dieu est joyeux. Et la troisième histoire, hein, la parabole du fils cadet, je ne veux pas vous la raconter, vous la connaissez par cœur. À la fin, quand le papa est tout content d'avoir retrouvé son fils cadet, qu'est-ce qu'il fait ? Il organise, il est tout content. Il organise une fête, on va tuer le veau gras, etc. Et puis il y a un autre gamin, son fils aîné, qui lui boude dans son coin, il dit non, je veux rien savoir, c'est un débauché, il a dépensé tout l'argent, ton argent. Voilà. Et là, qu'est-ce que le père dit à son fils aîné ? Il lui dit, ne fallait-il pas se réjouir ? Ne fallait-il pas se réjouir ? Ton frère qui était mort, il est vivant. Il est retrouvé. Et ne fallait-il pas faire une fête ? Voilà ce qui se passe quand quelqu'un se donne à Jésus. Quand quelqu'un se repent. C'est toujours une affaire joyeuse. Comme disait Luther, la repentance est une affaire joyeuse. C'est une histoire de retrouvailles. C'est une histoire de réconciliation. C'est une histoire de joie. Enfin ! Te voilà, enfin, super, dans mes bras mon fils, dans mes bras ma fille. Voilà ce que Dieu fait, voilà ce que Dieu nous communique au travers de son esprit. C'est sa joie, c'est sa joie. Et on remarque aussi Jésus lui-même, alors là j'ai parlé de ses histoires, mais Jésus lui-même, quand il rencontre des gens, prenez par exemple l'histoire de Zachée dans Luc 19, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la raconter. Il est dans son arbre, Zachée dans son sycomore, qu'est-ce qu'il fait ? Il descend de son arbre et il accueille Jésus avec joie, nous dit le texte. Avec joie il accueille Jésus, parce qu'enfin il voit en Jésus quelqu'un qui lui redonne son identité, hein, Zacharie qui veut dire Dieu se souvient. Et puis, que produit la joie ? La joie de l'accueil. Que produit la joie de l'accueil en Zachée ? Eh bien, les fruits de la repentance. Parce que Zachée, c'était un gars, c'était un voleur. Hein, c'était un collecteur d'impôts qui prenait de l'argent pour le compte des Romains, mais il s'en mettait aussi plein la poche. Et puis, qu'est-ce qu'il dit ? Ben, je vais restituer ce que j'ai volé. Jusqu'à 4 fois. La joie du salut. La joie du salut produit des changements de vie, des changements d'orientation, des changements de façon de voir les choses, et produit ici des restitutions. Parce que la joie du Seigneur est libératrice, et libératrice. Amen. Et puis, cette joie, on la retrouve aussi quand, vous savez, quand les disciples, les 70, hein, Jésus a envoyé les 12, après il a envoyé les 70 en son nom, pour guérir les malades, pour prêcher en son nom, etc. Et les 70, ils reviennent faire le compte-rendu à Jésus. Et puis, il nous est dit, le texte nous est dit dans Luc 10, 17, que les 70 retournent tout joyeux. Ils sont tout joyeux parce que même les démons leur sont soumis. Et là, Jésus, il leur dit pas que c'est pas bien d'être joyeux. Il leur dit plutôt de pas se réjouir de ça, que les démons leur sont soumis, mais de se réjouir de ce que leurs noms sont inscrits dans le ciel. Mais là, la joie, elle ne peut pas se contenir. La joie, elle ne peut pas se contenir. Parce que la joie, c'est de voir aussi que Satan et tous ses démons ont leurs limites et qu'ils sont vaincus. In fine, au bout du bout, ils sont vaincus. Et c'est là même que Jésus voit cette image de Satan tombant, hein, tombant, la chute, voilà, tombant sur terre. La joie, parce que Satan a été défait. C'est la joie de la victoire de Satan et de ses œuvres. Et in fine, c'est la joie parce que la mort a été vaincue. A été vaincue. Et donc, dans cette joie, il y a plusieurs degrés. La joie du salut, la joie de retourner à la maison, la joie d'être libéré de tous ces liens, la joie de enfin être réconcilié avec Dieu, la joie de pouvoir être soi-même comme Zachée, la joie aussi d'être libéré des liens démoniaques. Toute cette joie est différents degrés. Mais la plus belle des joies, la joie suprême, c'est Jésus qui le dit, c'est « Réjouissez-vous de ce que vos noms, écoutez bien cette phrase qui est très intéressante, de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » De ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Voilà. Dieu, il connaît tous les humains, mais le jour où quelqu'un se donne à lui, au travers de Jésus, son nom est écrit dans le ciel. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique que notre nom a été écrit dans le ciel. Et nous le savons, inutile de le préciser, nous savons que notre nom a été écrit pas avec de l'encre, il a été écrit avec le sang de l'agneau. C'est précieux, c'est précieux. On n'a pas idée à quel point Dieu aime les êtres humains. C'est inimaginable pour un entendement humain de comprendre à quel point Dieu nous aime. Mais c'est un amour qui a poussé Dieu à donner son Fils. Et quand on dit donner, c'est livrer jusqu'à la mort. Et ce sang, et on a raison de le rappeler à chaque fois que nous prenons le pain et le vin, on a raison de le dire, d'insister là-dessus, c'est ce sang qui a été utilisé pour écrire notre nom dans le ciel. Dans le ciel. Amen. Et donc cette joie, c'est la joie suprême. Et combien on a raison de prier pour que de prier pour tous ceux qui autour de nous, nos amis, notre famille, nos enfants, nos parents, qui sais-je, pour qui vous priez, de leur demander, Seigneur, je te prie que son nom soit inscrit dans le ciel. Mais c'est le désir de Dieu, hein? C'est le désir de Dieu, parce que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance du salut et soient sauvés. C'est le désir de Dieu. Et mystérieusement, Dieu il utilise nos prières. Donc continuez à prier. Et merci Seigneur pour ceux qui se donnent à lui, mais continuez à prier pour que tous les bien-aimés pour lesquels vous priez aient leur nom inscrit dans le ciel. Alors, je vais vers la fin. Est-ce que la joie, elle peut cohabiter avec la tristesse? Est-ce que la joie, elle peut coexister avec la souffrance, même la souffrance extrême? Est-ce que la joie peut être là où il y a le deuil? Est-ce que la joie peut être là même où il y a la persécution? Ma réponse est oui. Et vous savez, Paul, dans Philippiens, il dit, dans sa lettre, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et vous savez où il est, Paul, quand il écrit cette lettre? En prison. C'est étonnant. C'est étonnant. Eh bien, par là, Paul nous montre que même dans une situation difficile, il est possible d'être joyeux. Et il dit même, je vous le demande, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toujours dans le Seigneur. Même si vous êtes dans une situation difficile, il y a le Saint-Esprit peut vous communiquer et veut vous communiquer cette joie ineffable de savoir que même dans votre épreuve, même dans votre difficulté, ou même parce que vous arrivez à un moment où vous êtes vulnérable, fatigué, vous voyez votre corps se dégrader par la maladie ou par la vieillesse, il y a cette joie qui est en vous et qui peut rester en vous. Cette huile de joie, cette même huile de joie, hein, tu oins d'huile ma tête, dit le psaume 23. Qu'est-ce sinon que l'huile de joie? L'huile de savoir que un jour, déjà d'abord que mon nom est inscrit dans le ciel, ça c'est super, qu'un jour je serai avec Jésus et que ceux pour qui je prie, eux aussi, leur nom sera écrit dans le ciel et eux aussi sont au bénéfice de la joie du ciel. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Comme si, c'est étonnant que Paul insiste là-dessus. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Alors, pour conclure, je voudrais reprendre le verset que j'ai mis en introduction, à savoir le proverbe, le texte, le passage de Néhémie 8:10. Vous connaissez cette histoire. On est dans l'Ancien Testament. Néhémie, avec ses compagnons, va reconstruire les murailles de Jérusalem. Et puis, il y a tout un travail de non seulement de reconstruction de la ville, mais aussi tout un travail de reconstruction intérieure qui se fait dans le peuple. Et puis, voilà que solennellement, les prêtres et les lévites ouvrent la parole de Dieu et la lisent en public. Je vais lire ce petit passage à partir du verset 9, Néhémie 8, 9 jusqu'à 10. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, donc avant, ils lisaient distinctement le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Voilà donc tous les responsables qui lisent la parole de Dieu au peuple qui est là rassemblé solennellement. Et puis donc il y a cette lecture de la parole de Dieu et ça les touche, ça touche le peuple. Et voilà ce qu'ils disent: ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Car tout le peuple pleurait et en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Et puis ensuite, il dit, « Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. » Voilà le peuple qui est touché, vivement touché par ce qu'il entend. Ça provoque des larmes, la repentance. Voilà ce que provoque la prise de conscience quand quelqu'un est confronté à la parole de Dieu et par l'action du Saint-Esprit. Ça provoque une réaction très profonde de tristesse. Voyez ? Mais cette tristesse, et ce n'est pas incompatible, hein, la parole de Dieu parle de la tristesse selon Dieu qui pousse à la repentance. Cette tristesse conduit aussi à la joie de savoir que Dieu pardonne, que Dieu a les bras ouverts, que Dieu accueille, et que la tristesse n'est pas la fin de tout, mais que, comme pour Jésus, devant, il y a la joie. Il y a la joie. Il y a la joie de savoir qu'on est reçu, accueilli, réconcilié par le Seigneur. Et donc, et ce sera le mot de la fin, je prie que cette joie de Dieu vous soit encore, maintenant, communiquée. Et je vais prier, mais je vous invite à prier aussi dans ce sens pour vous. J'imagine que vous avez tous des sujets de tristesse, des sujets de peine. Pour un tel qui est dur, qui ne veut pas entendre la parole de Dieu, qui ne veut pas se donner à Jésus, ou bien telle situation de souffrance, que ce soit une maladie, ça peut aussi être le fait que quelqu'un soit décédé, la souffrance de l'absence, le deuil, eh bien, de remettre cette situation, quelle qu'elle soit, de la remettre au Seigneur et de lui dire, voilà Seigneur, tu connais cette situation, tu sais ce par quoi je passe, tu sais même ce qui me fait pleurer, mais c'est bon de pleurer, c'est bon de pleurer. Cette situation, je la remets entre tes mains et je veux que tu me communiques, que tu me communiques comme tu l'as fait pour Jésus, comme tu l'as fait pour les disciples, comme tu l'as fait pour Paul qui est en prison, que tu me communiques cette huile de joie, cette huile de joie. Vous êtes d'accord de prier dans ce sens ? Alors chacun va le faire dans son contexte, hein, dans sa situation, quelle qu'elle soit. Et vraiment, je vous invite à prier avec foi dans cette direction. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous console. Merci pour ta parole qui nous dit à quel point tu es un papa attentionné. Et tu nous connais par notre nom. Tu nous aimes. Et Seigneur, tu vois aussi tout ce qui nous chagrine. Là, je vous invite les uns et les autres à remettre au Seigneur ceux qui vous pèsent, ceux qui vous chagrinent, ce qui en vous vous trouble et qui provoque en vous une tristesse. Remettez-la au Seigneur. Et Seigneur, je te demande maintenant de me communiquer les yeux de la foi pour que je voie cette situation avec toi, comme toi tu la vois, et que tu me communiques, s'il te plaît, cette joie ineffable pour cette situation, pour cette personne. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de le faire maintenant. Tu nous parles. Gloire à toi. Restons un peu dans le silence. Laissez le Saint-Esprit vous parler. Voilà. Soyez bénis. Passez un bon dimanche.